Interview.
107.5 FM et internet www.rdwa.fr. Petit déplacement à Saillant dans la salle des fêtes avec Gérard. Bonjour Gérard.
Bonjour.
Cette association Couleur et Volume propose une exposition de sculpture pour une semaine, s'il me semble.
En effet, pour 8 jours, une exposition de sculpture avec un sculpteur sur métal, un sculpteur sur pierre et un sculpteur sur bois, qui sont de la région, bien entendu, hein, des sculpteurs de la région, et des pointures, hein, qui sont assez connues, qui sont également pour certains des tailleurs de pierre et des gens qui travaillent dans le patrimoine. Donc c'est intéressant, c'est des gens de qualité et qui ont vraiment un réel savoir-faire.
La genèse un peu de l'association ?
Alors l'association s'est créée en 2019. Avec un groupe de copains et d'amateurs d'art, on avait envie de promouvoir les métiers artistiques et les métiers de l'artisanat d'art. Donc on s'est regroupés et on a lancé cette association qui se manifeste par des expositions, et puis alors expositions professionnelles et amateurs, et puis également par des ateliers de découverte avec des maîtres de stage qu'on trouve comme ça, un peu à différents endroits, enfin, en fonction des volontés. Et on fait des ateliers de peinture, d'aquarelle, de sculpture, de modelage. On a même un atelier de crochet, de bande dessinée également, avec quelqu'un qui est connu sur la région, puisque c'est Yann Desgruel. Voilà, notre activité est assez dense. Bon, on a été un peu bridé en 2019 et début 2020, où on n'a pas fait grand-chose. Mais depuis, on s'est rattrapé. On a de nombreux ateliers, puisqu'on en est à Aquarelle 3. Voilà, on a cette exposition sur fin août, début septembre.
Suivi d'une autre. Il y aura une autre exposition aussi en partenariat avec Vivre à Saillant, autre association de Saillant, sur les cabanons. Une exposition patrimoniale où il y aura à la fois des présentations d'aquarelles, des photos de cabanons de vigne, la présentation d'un livre qui a été édité par Vivre à Saillant, qui a été fait par un collectif sur les cabanons, et puis des textes, des choses qui expliquent un peu toute l'histoire patrimoniale de ces cabanons de vigne et du matériel qui sera présenté. Parce qu'on a aussi comme objectif, c'est de travailler en collaboration avec des associations locales, culturelles, et de telle manière que plutôt que chacun qui travaille dans son coin, on mutualise un peu les idées, les forces, les thèmes, et c'est beaucoup plus comment dire, fédérateur, beaucoup plus dynamique de cette façon-là, quoi. Donc une deuxième exposition là fin septembre. Et puis après, on a des ateliers prévus donc sur octobre et novembre, le masterclass. Et l'objectif aussi est de réaliser l'année prochaine un symposium de sculpture à Saillant, premier symposium de la vallée de la Drôme, avec des sculpteurs qui viendraient une semaine attaquer un travail. Le thème est déjà trouvé, ce sera les rivières de Bacchus, voilà. Ouais. Thème qui associe à la fois la vigne, la rivière, donc voilà. Et c'est suffisamment large pour que les artistes puissent imaginer nous faire des projets intéressants de sculpture sur ce thème-là. On y associera évidemment tous les viticulteurs du coin pour être sponsorisés. Et bon, un symposium sur une semaine, sur Saillant, les gens pourront venir voir comment évoluent les œuvres jour après jour. Les écoles pourront venir voir aussi. Ça fera l'occasion de faire un travail pédagogique aussi sur qu'est-ce que c'est qu'une sculpture, comment on sculpte la pierre, comment on sculpte le bois, parce que les gens voient toujours le travail fini. L'intérêt du symposium, c'est de voir toute l'évolution et de voir ce que ça représente comme boulot. Et il y aura, comme dans tous les symposiums, un prix du jury décerné par des professionnels et un prix du public, fort probablement. Voilà, ça, c'est un des projets qu'on a.
Bernard, trésorier de l'association, Gérard, président. Ces ateliers, ils sont ouverts au public. Quel type de public vous avez visé? Quel type de public est présent?
C'est tous les gens qui sont intéressés suivant l'atelier. Les ateliers aquarelles, c'est des gens soit qui avaient déjà fait de l'aquarelle et qui ont envie de se perfectionner, soit qui ont envie de découvrir. Parce que notre objectif, c'est aussi de faire découvrir certaines pratiques d'art et que les gens y accrochent. Parce qu'il y en a qui sont des artistes dans l'âme et qui s'ignorent totalement. Et c'est pour ça qu'on essaye de faire assez large. On a aussi un atelier de sculpture prévu, qui sera au départ sculpture sur Ciporex, mais pour après évoluer sur un autre type de sculpture. Atelier modelage aussi. Quand on propose aux gens, il va y avoir tel atelier, il y en a qui disent « Ah, tiens, ça c'est intéressant, peut-être que je vais essayer, je vais voir. » Et donc les gens, ils viennent, et les professionnels, à la fois, ils montrent leur savoir-faire, mais ils donnent des conseils techniques, et ils initient les gens qui sont débutants, et ça permet comme ça que certaines personnes accrochent sur une activité artistique qu'ils n'auraient pas imaginé un jour pouvoir réaliser. Donc c'est le côté sympathique de l'affaire. Alors on fait des annonces sur les médias et par flyer et par affiche, et les gens s'inscrivent. Voilà, on sait que suivant les artistes, il y a un nombre limité de personnes. Mais comme souvent on refait une deuxième ou une troisième, atelier derrière, je dirais, il y en a pour tout le monde, quoi.
En fait, vous allez chercher des artistes que vous mettez en relation avec ce public.
Oui, on recrute des artistes qui veulent bien devenir maîtres de stage pour un certain temps, et donc coacher ces ateliers découvertes. Et bon, ces artistes sont rémunérés, bien entendu, hein, pendant les 48 heures ou les 3 jours de ces ateliers. Et puis voilà, on s'organise de cette façon-là.
Mais vous étiez sculpteur, peintre vous-même? Il y a quelque chose qui...
Non, pas du tout. On touche un petit peu. Voilà, moi je suis un peu aquarelliste, ma femme aussi. Gérard est un petit peu sculpteur, un petit peu peintre aussi. Mais enfin bon, notre talent n'est pas dans nos réalisations.
Vous exposez jamais?
Non, ça n'a aucun intérêt.
Non, ce qui nous intéresse, c'est de promouvoir, justement, c'était surtout... C'est là-dessus qu'on s'est retrouvés, d'ailleurs. Sachant que quand on fait un atelier masterclass, c'est bien atelier découverte, c'est-à-dire ce n'est pas un atelier permanent. C'est-à-dire qu'on ne met pas en concurrence les personnes qui viennent avec des gens dont c'est la profession et qui donnent des cours et qui habitent dans la région. Ça n'a rien à voir. C'est pour justement inciter les gens à découvrir certaines pratiques d'art et s'y accrocher, si ça prend. Et justement, ça permet aux autres qui donnent des cours peut-être d'avoir après des...
En fait, ça fait la promotion de tout ce qui peut se passer dans la vallée, les galeries, les expositions, parce que les gens qui ont eux-mêmes essayé de pratiquer un jour, qui ont découvert, finalement, ont envie d'aller voir ailleurs ce que font les autres.
Expliquez-nous un peu aussi le fonctionnement de l'association.
C'est très simple, hein. On peut adhérer à l'association pour la modique somme de 10 euros. Et puis, ça permet de participer à toutes nos activités, d'être informé sur toutes les expositions ou les visites ou les différents ateliers. Oui, parce que, pour le moment, ça n'a pas pu se faire avec les différents problèmes sanitaires, mais... On doit aller visiter des ateliers d'artisans d'art, on doit visiter des expos, bien entendu, qui sont un peu plus loin que notre région, et puis visiter également des artistes plus connus qui pourraient éventuellement nous recevoir chez eux et nous montrer leur travail. Donc tout ça, c'est inclus dans cette cotisation. Et voilà.
Et parlons de cette expo alors.
Comme c'est la première expo professionnelle, on s'est dit qu'on allait mettre en valeur des professionnels du coin, de la vallée de la Drôme. C'était quand même la moindre des choses. Il se trouve que Pierre Calon, le sculpteur sur pierre, sur fer, sur glace, sur sable et tant d'autres matières, fait partie de notre conseil d'administration. Et c'est donc avec lui qu'on a pu découvrir le travail de Yann Dumas et de Alexandre Philippet, qui ont bien voulu se prêter au jeu et venir exposer leur travail sur cette semaine. Donc voilà, c'est un premier pas, parce qu'on pense après, effectivement, élargir un peu le champ de recherche de professionnels et essayer d'avoir des sculpteurs, pas forcément que d'ici, quoi. Mais bon, faut bien franchir le premier pas.
On va donner les dates d'ouverture, parce que là, aujourd'hui, vous êtes en plein montage. Je vous prends un peu...
Alors, l'exposition démarre samedi à 16h, demain à 16h, jusqu'au 5 septembre à 20h.
Quelles vont être les conditions ?
Ah ben, de toute façon, il y aura le pass sanitaire. On demandera le pass sanitaire à l'entrée parce que c'est obligatoire. Et on n'a pas le choix. À partir du moment où les gens ont un pass sanitaire valide, ben, ils pourront vaquer dans le niveau. Et puis accéder, bien entendu, à la buvette. Car l'entrée est libre, mais il y a une buvette. Et il y aura également une journée, mercredi 1er septembre. Yann Dumas et Alexandre Philippet vont faire une démonstration de sculpture. L'un, une démonstration de sculpture sur bois, l'autre sur pierre, qui se passera en extérieur, auquel tout le monde est invité à venir... Tout le monde est invité à venir voir leur travail, leur façon de travailler. Donc ça sera sur la journée. Et puis sinon, le samedi 28 août, 16h-20h, l'ouverture et vernissage à 19h. Le dimanche 29 août et le samedi dimanche de l'autre week-end, ça sera 9h30, 13h et 15h-19h. Et en semaine... Les jours de semaine, ce sera l'après-midi, de 16h à 19h.
Joli tombola.
Ah, tombola. L'association a quand même besoin de réunir un peu d'argent, ne serait-ce que pour réaliser un symposium qui coûte très cher. Il va y avoir une tombola. 2 euros le ticket de tombola, c'est pas excessif. Et cette tombola va se dérouler de la manière suivante. Chacun des sculpteurs a amené une œuvre pour la tombola. Les gens qui vont acheter les billets vont choisir une des trois œuvres. Là, pour l'instant, il n'y en a qu'une de présentée, mais les autres arrivent. Ils vont choisir une des trois œuvres. Ils vont plébisciter une. C'est l'œuvre qui sera le plus plébiscitée, qui sera le prix de la tombola. Les deux autres, ils reprendront leur travail et ils le vendront. Hein. C'est pas un souci pour eux. Et donc voilà, la tombola, elle est à double, comment on peut dire, à double détente. C'est-à-dire qu'on joue... en espérant gagner ce qu'on a choisi, et puis si ça se trouve, on va gagner, mais ce ne sera pas ce qu'on a choisi. Donc c'est assez original. Mais du coup, ça peut intéresser les gens. Voilà.
On fait du neuf qu'on a détesté.
Ça revient un peu à un prix du public, en gros. Hein, oui. Voilà.
Et puis il y aura des bouteilles, c'est des bouteilles de crémant, des bouteilles. Il y a divers lots.
Après, il y aura sûrement une négociation possible avec le trésorier.
Sûrement.
Par exemple.
Est-ce que vous voulez citer des partenaires, des gens avec qui vous travaillez ?
On n'a pas beaucoup pour le moment, justement. On est plutôt à la recherche. On est au début de nos... Donc, on a la cave Raspail qui nous aide un tout petit peu.
Mais bon, ça fait 2 ans qu'on existe. Deux ans qu'on végète, un an d'existence, en gros, et 2 ans où on végète. Donc, les partenaires, on ne les trouve pas comme ça. C'est justement avec des expositions comme ça, avec des professionnels qui ont du talent et de la qualité, qu'on va pouvoir... faire connaître l'association et la mettre en valeur et pouvoir justement trouver des partenaires.
Par contre, si la municipalité de Saillant nous a largement aidés et est largement derrière nous pour les locaux, pour tout le matériel. Et là, je peux dire qu'ils sont, bien derrière nous. Donc c'est notre premier sponsor.
Bernard, Gérard, merci à vous pour cette présentation de l'association Couleurs et Volumes. Et puis je vais aller voir un peu les artistes.
Et merci de vous être déplacé, c'est gentil.
Pierre, bonjour.
Bonjour.
Alors, sculpteur.
Oui, sculpteur de métier depuis 25 ans officiellement que ça, parce que j'ai eu d'autres boulots avant, mais quand même sculpteur depuis l'âge de 5 ans dans l'atelier du grand-père ébéniste où j'ai appris à me taper sur les doigts, où j'ai appris à désaffûter les ciseaux à bois et du coup à les affûter. Donc ça implique le métier un peu derrière.
Il était sculpteur, le grand-père ?
Le grand-père, il était ébéniste et ouais, il faisait des sculptures sur les meubles, des choses comme ça. Voilà. Et donc, ça donne envie quand on est gamin. Moi, je passais beaucoup de temps dans l'atelier du grand-père et du coup, ouais, j'ai appris là, je pense. Et puis après, les rencontres, les expos, les machins, et ça donne envie. Puis on voit de choses et puis on a envie d'en faire.
Et donc, c'est quel parcours pour devenir sculpteur ?
Alors moi, le mien, il est complètement autodidacte. Mais bon, quand j'ai commencé à vraiment vendre mon travail, j'étais assistant d'un sculpteur, Jean-Noël Fessy, que je remercie d'ailleurs, qui est au fin fond des Alpes-Maritimes, dans la vallée de la Roya, où j'ai habité aussi, parce que je me suis pas mal baladé avant d'atterrir ici dans la vallée. Et même si c'est mon origine, hein, parce que moi je suis de Tournon en Ardèche, donc voilà, j'ai habité Clioux-Cla dans les années 80, enfin bon, je suis un peu du coin quand même, mais j'en suis parti pendant très longtemps, et ça fait que 3 ans que je suis revenu ici. Mais ouais, donc assistant d'un sculpteur à un moment où ben, du coup on allait faire des installations un peu partout en France, à l'étranger, et puis là je me suis dit, ben c'est bon, je peux passer le cap et me mettre à mon compte.
Quand on est assistant d'un sculpteur, c'est quoi le travail ? On pré-sculpte ? Lui, il finit ?
Disons que lui, il fait le projet et il n'a pas forcément la technique de ce qu'il veut faire. Et donc, il appelle les copains qui ont la technicité, ce que j'avais à l'époque. Et voilà, du coup, je me suis dit, tiens, puisque lui, il peut le faire, moi aussi, je peux faire des projets. Et puis, je m'y suis mis, tout simplement.
Voilà, c'est ça, la sculpture, il y a un peu de temps ?
Disons que la sculpture, il y a un gros boulot qui est le projet. Quand on a pondu un projet, après on sait où on va. Après, si on a les outils et la technicité pour le faire, c'est quelque part c'est facile. La plus grosse partie, elle était faite dans le projet. Si on a un projet bien précis, après tout va bien, ça suit derrière.
Et tu as été dénoncé comme sculptant sur beaucoup de matières différentes. Parle-nous-en un peu.
Oui, et donc moi, d'ailleurs, je me situe comme un sculpteur de matière parce que je touche à tout. Le bois, la pierre, le métal, la neige, la glace, qui a été ma spécialité. J'ai même été champion de France de sculpture sur glace 2005. C'est des vieilles choses déjà. Pour une petite anecdote, une année avec un copain suisse, on a fait une sculpture en fumier. Voilà, ça a été une méga réussite. Quand on rentrait à l'hôtel le soir, même après 3 douches, les gens nous prenaient pour les vaches du coin parce qu'on sentait le fumier. Mais on reprenait un fauteuil d'une gamme pour une boutique de meubles. Et le dernier jour, c'était en novembre, le dernier jour, on finit notre fauteuil. Dans la nuit, il s'est mis à neiger. Le lendemain matin, le fauteuil fumait parce que le fumier avait été retourné, donc il avait chauffé, la neige n'avait pas tenu dessus. La petite colline toute blanche, pas une trace de pas, le fauteuil qui fumait au-dessus, c'était magique. Et comme quoi, moi je dis qu'on peut faire des choses, je travaille aussi le bambou, je travaille le land art beaucoup. On fait des choses avec tout. Tout peut être beau, toutes les matières peuvent être belles, il suffit de leur donner le petit plus pour que ça devienne quelque chose d'intéressant.
Et il disait du sable aussi, comment on sculpte ?
Oui, alors le sable aussi, on le tasse, on l'arrose. Alors là c'est pareil, il y a 2 écoles dans le sable. Moi je fais partie de l'école, on va dire naturelle, parce que moi je travaille le sable qu'à l'eau de mer. C'est-à-dire que si on arrose bien le sable à l'eau de mer, l'eau de mer étant salée, le sel avec le soleil va cristalliser, il va agglomérer un peu les grains de sable, ce qui va permettre d'avoir des détails plus intéressants. Après, on voit des gros festivals comme ça se fait dans le Nord ou en Belgique, où le sable est collé. Ils mélangent de la colle au sable et là, on peut faire des choses évidemment encore plus hautes, encore plus dans des dévers, dans des choses comme ça. Mais c'est la colle qui tient. Et pour moi, c'est plus la même chose, quoi. Le sable, c'est une chose naturelle. Puis généralement, on travaille sur des plages. Moi, je vais par exemple régulièrement travailler le sable en Guyane, à Kourou. On travaille le sable naturel parce qu'après ce sable-là, les gens, ils vont aussi poser leurs serviettes dessus. Moi, j'ai pas envie de mettre de la colle dans du sable. Ça fait partie de la nature. Et en restant dans la nature, quoi.
Quelle est la matière la plus tripante ?
Je dirais que c'est la glace, quand même. Parce qu'il y a la magie de la transparence. On est souvent dans des conditions très froides. Mais moi, je travaille aussi la glace par 30 degrés en Arabie Saoudite, au Koweït, dans des endroits comme ça, où je sais que ma pièce va tenir 3-4 heures et puis elle va finir en seau d'eau, quoi. Mais bon, c'est une matière fabuleuse, la glace, parce qu'il y a cette transparence. Parce qu'on travaille généralement une glace qu'on appelle une glace cristal, qui est vraiment comme du verre, complètement transparente, dès qu'on y remet un petit coup de chaud pour la lisser. Parce qu'évidemment, on travaille à la tronçonneuse, au ciseau, etc. Et dès qu'on met un coup de tronçonneuse, la glace devient blanche. Donc après, c'est un petit coup de fer à repasser, par exemple. Alors là, c'est pareil, une anecdote terrible, parce que j'en ai plein des comme ça, mais par exemple, j'ai fait, moi, pendant très longtemps, des démos de glace sur des événements, sur plein de choses, et au moment où je sors mon fer repasser pour relisser ma glace, toutes les dames autour, « vous allez prendre le jus, vous allez prendre le jus !» Et pendant, je dirais, 20 ans, ma réponse, c'était « Mais vous inquiétez pas, Claude François, c'était mon cousin, il a pris pour la famille. » Et il y a quelques années, j'ai eu l'arbre de généalogique de ma famille. Claude François était réellement mon cousin. Donc je le dis plus. Voilà. C'est délirant, mais c'est ça.
Ce rapport à l'éphémère sur la glace, notamment le sable qui, à un moment donné, va être réemporté par les vagues, alors qu'on a l'impression qu'une sculpture, c'est quelque chose de souvent volumineux, un peu imposant, voilà, dur, oui. Qui va rester dans le temps.
Qui va rester dans le temps. Mais en fait, non, parce que nous, en tant que sculpteurs, en fait, on fait la pièce. Une fois que la pièce est faite, l'idée, c'est de la vendre. Donc, quelque part, elle disparaît aussi. Elle va chez ce particulier, elle va dans un musée. Certaines, on peut les revoir, mais souvent, on ne revoit plus les pièces qu'on a vendues. Donc, la glace, elle a fondu et c'est pareil. Enfin, moi, ça me pose pas de problème. Je travaille beaucoup, justement, en land art avec des matériaux ramassés dans la nature, etc. Ça va avoir une durée de vie de 3 mois, 6 mois ou 6 ans d'ailleurs, mais ça va finir par disparaître et retourner à la nature à un moment. Donc non, c'est pas un problème. Enfin, pour moi en tout cas, ça ne l'est pas.
Est-ce que tu transmets ton art ?
Oui, je transmets mon art très 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 régulièrement, oui.
Auprès de qui, comment ?
Alors souvent auprès du public. Déjà, parce que je travaille beaucoup sur des symposiums où on fait des démos, où on invite les gens à venir travailler aussi, ce genre de choses, en leur donnant de la technique, tout simplement. Là, par exemple, pour le collectif Couleurs et Volumes, je vais faire en octobre, fin octobre, une initiation à la taille directe sur terre, donc sur de l'argile, mais on part d'un bloc et on fait comme si on était dans du bois ou dans de la pierre, on va tailler dedans, voilà. Donc oui, je transmets souvent mon art.
Est-ce que tu nous présenterais ton travail ici sur cette exposition-là ?
Oui, pourquoi pas.
Par exemple, déjà, il y a cette pièce, parce qu'il y a une tombola quand même.
Voilà, bon, ça, il y aura une tombola donc, pendant la semaine d'expo. Et donc l'idée, c'était de mettre une pièce pas trop chère aussi, parce que bon, il y a un coût toujours. Et en fait, là, c'est une pièce que j'ai faite il y a 8 jours. Hein, c'est pas sur un symposium dans les Bauges. Et en fait, c'est un copain qui m'a apporté cette cisaille, parce que moi, je travaille beaucoup l'art récup, au niveau du métal surtout. Donc je fais des festivals art récup, où là, on nous amène une benne de déchetterie, une benne métal de déchetterie. Donc tous les artistes qui sont là, on sort là, on vide la benne. Une fois que la benne est vide, chacun va récupérer ce qu'il peut là-dedans pour faire une pièce avec un jour et demi, 2 jours, 3 jours, suivant les endroits. Pour faire une pièce ou plusieurs sculptures, enfin ça dépend. Et donc là, la semaine dernière, il y a un copain qui m'a amené cette cisaille, là, et rien qu'en regardant cette cisaille, je me suis dit, mais là, dedans, il y a une baleine. Et puis voilà, j'ai rajouté une queue, 2 nageoires, un petit socle avec 3 vagues, et puis voilà, quoi.
C'est devenu une baleine.
Voilà. Après, il y a de tout. Hein. Alors moi, depuis quelques années, je travaille beaucoup, par exemple, sur l'équilibre. Donc on va aller voir une autre baleine qui est en bois, et qui se balance déjà, voilà. Donc ça, c'est une pièce que j'ai fait au départ, la première, parce que j'en ai fait du coup plusieurs l'année dernière, parce que j'ai fait partie il y a quelques années sur Montpellier d'un collectif qui s'appelait La Grande Barge à l'époque, où c'est que de l'art cinétique. Aujourd'hui, ça s'appelle Avis de Chantier, et ils font un festival qui s'appelle Les Palabrasives, qui vient malheureusement d'être annulé d'ailleurs, parce que je devais y aller là courant septembre. Et donc moi, ça fait longtemps que je fais plus de cinétique. J'ai fait des grosses machines en ferraille, en choses comme ça pendant longtemps. Ça se vend très mal, j'avoue. Ça se loue, mais ça se vend très mal. Ça me permettait pas, en tout cas, de bouffer en tant que sculpteur. Et donc, l'année dernière, il rappelait un peu tous les anciens. Il voulait que tous les copains du départ soient, l'origine soit un peu là. Et donc, faut que tu sois là. Et je disais, mais moi, je fais plus de machines. Et donc, j'ai eu l'idée, à un moment, de me dire, mais je vais rester sur ce que je sais faire. Donc, quelque chose en bois, parce que, en ce moment, je suis pas mal dans le bois. Et du coup, j'ai fait une baleine en équilibre, voilà, qui se balance toute seule, qui est vraiment dans l'air. Petit côté magique, quoi, aussi. Elle flotte.
Voilà, c'est pas une machine, mais elle est mécanique quand même.
Elle est mécanique quand même, voilà.
Et un peu de métal tout de même.
Il y a un petit peu de métal quand même pour l'axe, pour que ça puisse bouger et flotter tranquillement.
Donc du coup, tu as quand même une multitude d'outils différents, puisque tu...
Ah ben oui, ben, les outils à pierre, les outils à métal, hein, les meuleuses, les postes à souder, etc. Et tous les outils à bois, la tronçonneuse, bon, il se trouve que j'ai été bûcheron il y a très longtemps. Et donc la tronçonneuse aujourd'hui, c'est un peu le prolongement de mes mains. Donc,
c'est quand même toujours un truc qui impressionne, cette histoire de sculpter à la tronçonneuse. On a l'impression que c'est un outil un peu bourrin.
Pas du tout.
Et ouais, c'est
pas
ça.
Du tout, pas du tout. Il suffit de savoir l'utiliser. Comme tout, si on a le bon outil pour faire le bon travail, tout va bien. Donc, si on sait manier une tronçonneuse, après, c'est vrai qu'on a des guides pointus, on a des choses comme ça, on a des outils particuliers que n'a pas le bûcheron ou le lambda qui va couper son bois de chauffage chez lui, c'est sûr. Mais bon, après, faut savoir maîtriser les outils, c'est tout. Il n'y a pas de secret.
D'autres pièces ?
Ben d'autres pièces, par exemple, là, on est sur du métal, donc voilà. Donc lui, ça, c'est une pièce que j'ai montée sur un socle avec un gazon artificiel, parce que en fait, c'est un oiseau. Moi, je les appelle volatiles, hein, parce que voilà, on peut pas dire que c'est un héron, on peut pas dire que c'est une cigogne ou je ne sais quoi, quelle grue ou.
En tout cas, ça ressemble à une grue.
Ah ouais, ça ressemble à une grue, si on veut. Toi, tu vois une grue.
Je
vois
un volatile.
C'est vrai qu'il a un peu un bec de flamand aussi. Voilà, il a la patte comme le flamand rose. Ouais. Ça serait plus un flamand rose quand même. Et donc lui, il est appelé à être planté dans un gazon. Voilà, donc c'est pour ça que je lui ai fait un socle particulier. Ouais. C'est une pièce qui va en extérieur. C'est du métal, ça craint pas.
Voilà, et là pour dire. C'est des tiges.
C'est de la tige à béton. Simplement la tige à béton, mais du coup, quand elles sont réunies comme ça, ça donne vraiment un plumage. Et voilà. Donc celui-ci s'appelle le flamand pas rose, parce que nous avons là-bas le flamand rose, en beaucoup plus petit, mais bon, celui-là, il est rose, parce qu'il y a, une brique que j'ai ramassée dans le lit de la Drôme en allant me tremper, qui avait cette forme-là, et je me suis dit, tiens, c'est le corps d'un oiseau, donc voilà, du coup, je l'ai habillé de métal, et c'est devenu un flamant rose, tout simplement.
C'est intéressant, cette histoire de récupérer comment est affûté ton œil à chaque fois que tu vois quelque chose.
On va se déplacer sur la table là-bas, tu vas voir.
Alors, plein de volatiles,
hein, de petite taille, mais bon, c'est vrai que je suis tombé, par exemple, sur cette pièce-là, juste la tête. Ça, c'est des gonds au départ. Oui. C'est fait pour être encastré dans le mur, et c'est des gonds de volet ou de porte, je sais pas quoi. Mais bon, c'est tout de suite un bec, c'est un bec, une tête d'oiseau.
Les socles de tracteur.
Voilà, ça, c'est les socles de charrue, mais tout de suite, c'est des ailes. Il y en a un autre ici dans le même style. Un vieux marteau pour souder l'étain. Bon, mais tout de suite, c'est magique. On voit le bec, on voit l'oiseau. À force, l'œil s'aguerrit. C'est un petit peu comme on va ramasser les champignons. Au début, on regarde, puis il suffit d'en trouver un ou deux et après, on voit plus que ça. C'est un peu la même chose. Je pense qu'il faut travailler, notre cerveau va travailler à un moment, et il va se fixer là-dessus et après ça fonctionne tout seul.
T'es plutôt animaux ?
Alors c'est vrai que je suis plutôt dans des animaux, mais bon, il y a aussi quelques personnages qui sont là-bas dessus. Il y a un tiki, le seul tiki qui a une dent en or, par exemple. Voilà, parce
c'est
que
quoi,
le tiki, c'est un espèce de totem des îles d'Océanie, voilà, donc l'île de Pâques et compagnie. Donc il a un petit peu ce côté-là. Sainte-Nitouche qui est à l'entrée là-bas, par exemple. Bon, c'est du personnage aussi. Mais c'est vrai qu'en ce moment, je suis dans une phase très animalière. Pourquoi ? J'en sais rien, mais voilà. C'est ma période. Et très, très, très oiseau aussi en ce moment. Beaucoup. Dans toutes les matières.
Où est-ce qu'on trouve ton travail habituellement ? Est-ce qu'on peut te suivre ? Est-ce que tu as un site ?
Alors oui, j'ai une page pro sur Facebook, Caillou Sculpteur. Voilà, donc parce que Caillou, je m'appelle Pierre et c'est mon surnom depuis très longtemps en fait, parce que quand on travaille en équipe, entre autres dans les grottes de neige artificielles, il y avait plusieurs Pierres et quand on appelait Pierre, il y avait trois qui répondaient, donc on a voilà et puis au moins ouais, toi c'est Caillou, puis c'est resté Caillou et puis ça me plaît bien, donc je le conserve. Et puis bon, dans la vallée de la Drôme, j'ai pas mal de mes sculptures dans la boutique Girouette à Cré, à la montée du pont. Voilà, toute l'année, il y a toujours 4, 5, 6, 10 pièces à moi.
Et ton atelier, il est où ?
Et mon atelier aussi à Cré. Alors là, par contre, c'est sur rendez-vous.
Mais c'est possible.
Mais c'est possible. Voilà, parce qu'en fait, j'ai pas pignon sur rue, j'ai pas l'atelier sur la rue, j'ai l'atelier au fond de mon jardin qui est assez immense, voilà, qui est juste sous la tour de Cré, dans un très bel endroit. Donc, je peux pas recevoir les gens dans la rue, enfin, avec une entrée directe, voilà, donc c'est sur rendez-vous. Parce qu'il faut traverser mon appartement d'abord, donc faut laisser madame tranquille aussi de temps en temps.
Est-ce qu'on a tout dit ? Est-ce que tu as une parole libre ?
Pour conclure, je dirais que on réunit trois amis, parce qu'on travaille ensemble de temps en temps, on fait pas mal de symposiums ensemble, et je pense qu'à trois, on va faire une belle expo. J'espère qu'il y aura beaucoup de monde pour la voir.
Je vais aller voir les deux autres amis.
Voilà, je te laisse.
Merci. Bon, Yann, bonjour.
Eh bien, bonjour.
Alors, présente-nous un peu ton travail de sculpteur.
Bon, déjà, à la base, je suis pas forcément sculpteur, je suis issu du métier de tailleur de pierre. Donc, je me suis mis petit à petit un petit peu à la sculpture, parce que tous mes collègues sculptaient le bois, notamment. Donc, j'ai commencé par la pierre, je suis venu petit à petit au bois.
Tailleur de pierre, compagnon, tout ça, enfin, t'as fait ce type de parcours ?
On a fait les compagnons, ouais. Et du coup, on travaille beaucoup en monument historique, en restauration du patrimoine. Et de plus en plus, on essaie de trouver du temps pour faire un peu de symposium. Sculpture sur pierre, sur bois, sur neige.
Tu te destinais à cette forme d'art-là ou...
Ah non, pas du tout. C'est arrivé comme ça. Il n'y a pas de loi, il n'y a pas de règles. C'est juste par plaisir, de faire des belles courbes, de se faire plaisir, de trouver des belles matières, de la belle pierre. Et ouais, de se faire plaisir.
Voilà. Et donc tout en autodidacte.
Oui, oui, oui. Bon, on se fait influencer un peu par les copains, parce qu'il y en a qui ont fait des écoles d'art. Et puis, non, après, oui, c'est... on n'a pas de maître en sculpture, on n'a pas de professeur, on n'a pas de... Voilà. C'est un peu comme ça vient.
Et tu dis « on »
On est une... Ouais, on est une petite bande de copains, à la base, dont mon collègue, là, avec qui on a fait les compagnons, en taille de pierre. Lui, il était sculpteur déjà avant.
Du coup, il y a un collectif, un endroit où on vous trouve, où vous bossez ensemble ?
Pas du tout.
Non,
on se retrouve sur les symposiums. C'est un petit peu notre petite raison pour faire la fête, se retrouver, sculpter, créer. Et sinon, on a chacun notre atelier un peu chez nous.
Alors, on va vers une pièce. Qu'est-ce que toi, tu fais ?
Alors, moi, c'est plus le côté pierre. Un tout petit peu le bois, mais là, j'ai amené beaucoup de la pierre. Notamment, là, autant des créations abstraites, autant il y a des vasques en pierre. Donc ça, c'est pour moi, ça se rapproche plus de mon métier d'origine, donc c'est vraiment la taille de pierre, mais en création. Donc c'est des vasques en pierre qui sont vraiment en pièce unique. Ou alors le bateau, parce que ça fait très longtemps que je rêve de faire un bateau en pierre et en bois.
Il est assez majestueux, quand même.
Merci.
Et puis alors, tu nous parlais justement de cette histoire de faire des belles courbes et tout, et donc... Ton travail est très porté sur la courbe.
Sur la courbe, oui. Après, des belles courbes, c'est juste des courbes qui me parlent, que j'aime bien.
Oh, mais t'as dit belles, regarde qu'elles sont belles.
Si vous trouvez qu'elles sont belles, ça me va.
Tu parlais d'abstrait. Moi, je me suis toujours posé la question de comment est-ce qu'on arrive à faire une œuvre que tu dis abstraite. Qu'est-ce qui t'inspire pour faire ces courbes-là?
Alors déjà, pour moi, il y a deux choses. Il y a ou un projet qu'on établit sur un papier, qu'on reporte sur une pierre, qu'on trace, qu'on taille. Moi, j'y vois moins quelque chose d'abstrait, parce qu'en général, c'est un projet qui a plus ou moins de figuratif, comme le bateau, par exemple, c'est un élément précis.
Ah oui, là, clairement, oui.
Ou alors, en gros, les autres pièces... Je trouve un très beau caillou, comme je dis. Donc là, par exemple, on a un marbre qui est noir et blanc. On a du calcaire marbrillé qui est un peu rose avec des veines violettes. Et en général, quand on trouve une pierre qui nous plaît, on taille et on voit ce qu'on fait au fur et à mesure. Et là c'est pour moi, là, c'est le plaisir vraiment de sculpter.
Voilà. Donc tu n'as même pas prédéfini le projet, tu y vas tu...
Non, du tout, non. Ça vient comme ça.
Et tu les dessinerais à quoi, ces pièces, du coup ? Là, les vasques, elles marchent, elles fonctionnent,
Là, les vasques sont fonctionnelles. On en a fait une pour chez nous aussi, dans le même style. Après, les pièces murales, ça va au mur, hein, forcément. Et toutes les autres, c'est les pièces qui peuvent aller sur une commode, sur un pied, des stalles, n'importe. Il n'y a vraiment... Il n'y a pas de règle non plus.
Où est-ce qu'on peut trouver ton travail ?
Dans des boîtes dans mon atelier, stockées au fond du garage. Mais sinon.
Des visitables ton atelier ?
Non, du tout, non. Non, c'est un tout petit atelier pour l'instant. Et sinon, sur notre site internet, qui s'appelle accorddepierre.com. C'est un site où il y a notre parcours, autant sur la taille de pierre, les travaux encordés sur le monument historique, la sculpture, les créations, tout ça.
Et tu tournes ?
Cette année, on a fait 4 expos, mais on avait un petit peu laissé tomber jusque-là pour se porter un peu plus sur les interventions sur le monument historique. Et cette année, ça s'est prêté pour qu'on fasse 3-4 expositions. Et on expose encore au Montreux Art Gallery en Suisse, qui est une très très grosse exposition, en novembre.
Et est-ce que tu transmets ton art ?
Pas du tout. Non, c'est pas prévu. Bon, on a trop de projets à côté pour l'instant. Moi, j'ai pas le temps de me dire que je peux transmettre. J'ai une entreprise individuelle, du coup, je travaille tout seul ou avec d'autres copains qui ont d'autres entreprises individuelles. Mais non, pour l'instant, pas du tout l'idée de transmettre autant sur la taille des pierres que sur la sculpture.
Est-ce que tu veux une parole libre pour finir ?
On est content de venir exposer à Saillant, déjà, parce qu'on fait très très peu d'événements en Drôme. Et on aimerait bien en faire un peu plus, parce que voilà, pour l'instant, autant sur la création que sur le travail dans le bâtiment, on bouge partout en France. On habite en Drôme et on fait très très peu de choses en Drôme.
Il n'y a rien à restaurer ici ?
Je ne sais pas s'il n'y a rien à restaurer, mais en 15 ans de métier... On s'est fait connaître sur autant sur l'Alsace que sur l'Isère, un peu l'Ardèche, mais pas en Drôme. Pourquoi, je sais pas forcément d'ailleurs, c'est venu comme ça. Peut-être qu'un jour on sera les tailleurs de pierre drômois les plus connus, mais c'est pas prévu pour l'instant.
Je te le souhaite, merci Yann.
Eh ben merci à toi.
Bon, et puis alors pas moyen de choper Alex. École supérieure d'ébénisterie d'Avignon. Il a travaillé sur corde. Il a été compagnon du devoir. Yann nous l'a dit. Il est tailleur de pierre. Et il s'occupe de rénovation du patrimoine également. Et il traite différents supports. Le bois, la pierre, les dorures. Et pour cette exposition, il propose évidemment des sculptures originales sur bois. Figuratives également. Et sur pierre. Ainsi donc, couleurs et volumes vous attendent avec le vernissage samedi 28 août dès 19h à la salle des fêtes de Saillant pour une semaine jusqu'au dimanche 5 septembre d'exposition entrée libre. Retrouvez cette émission en podcast sur le site internet de RDWA, www.rdwa.fr, et à bientôt sur cette antenne.
L'interview du jour.